test d'une maladie contractée par un participant au test. Enfin, la saison des résultats du troisième trimestre a tout juste débuté aux États-Unis ce mardi par les publications des banques Citigroup et JP.
Radio G. 105 FM.
Et bienvenue à l'écoute de l'Oreille Curieuse, la quotidienne dédiée aux actualités culturelles et locales sur Radio G. Le mardi, nos micros sont ouverts à nos partenaires, des structures importantes pour la vie culturelle locale. Et chaque deuxième mardi du mois, c'est au THV que nous allons à Saint-Barthélemy d'Anjou. Ensemble ce soir, nous parlerons de la nuit du cinéma et de son time gaming avec les manettes et compagnie. Ce sera le 21 novembre. On parlera de la vie animée de Nina W. C'est le titre de la dernière création de Séverine Coulon et de sa compagnie Les Bas Bleus. Un spectacle théâtre et marionnettes à découvrir le 27 novembre. Et bien sûr, nous... J'ai dit une bêtise ? Non, c'est ça.
Non,
c'est
ça.
J'ai des doutes. Et bien sûr, nous parlerons de tout ce qui fait l'actualité du THV, à savoir les prochaines dates, les projets jeunes publics et les conditions d'accueil. Pour en parler, je suis heureusement accompagnée, pour vérifier mes dires, d'une partie de l'équipe du THV. Amélie, bonsoir.
Salut.
Et toi, tu es chargée de communication.
Oui, toujours.
Toujours, félicitations. Ouais. Et Coraline.
Bonsoir.
J'ai été un petit doute. Bref, Coraline, vous l'avez compris, et tu es chargée de développement au THV.
Oui.
Et en ce moment, tu remplaces aussi Maud.
C'est ça.
Qu'on salue.
Voilà. Tout à fait.
Je partage des dictons et des proverbes en début d'émission désormais sur cette saison. Est-ce qu'il y en a qui vous tiennent à cœur de partager avec eux?
Bah écoute, on a essayé de chercher, mais on n'a pas trouvé là, comme ça, d'entrée de jeu. Promis, je t'en trouve un pour le mois prochain.
Ok. Coraline, toi, non?
Non.
Bon, bah, je partage avec vous une citation d'Erasme, croyez-le ou non, mais il a dit « Connaît-on plus obligeant que deux mulets qui s'entregrattent ?» Et je trouve ça très mignon. Voilà. On commence avec un titre de musique de Titi Robin. Alors, c'est pas toi qui l'as choisi cette fois-ci, Amélie, donc je vais pouvoir en parler plus ou moins.
C'est cool.
C'est Payo Mixto Ziriab de Cordoba. Et on écoute Titi Robin parce qu'il sera sur scène au THV le 10 novembre.
C'est ça.
Ok, bon, bah, on écoute ça.
Thank you.
Alors ça y est, après des mois de pause forcée, comme à peu près le monde entier.
Tout à fait.
Au théâtre,
il n'y avait pas que nous.
Donc là-dessus, il n'y a pas de regret.
Sinon, il y aurait eu un complot.
Ouais. Vous avez pu rouvrir au THV, comment ça se passe? Quelles sont les choses à avoir en tête?
Quelles sont les choses que comment on s'est adapté, tu veux dire, à toutes ces situations? Eh bien, alors déjà pour commencer, on a essayé de reporter un maximum de dates en début d'année là. Donc c'est pour ça qu'on a ouvert en fait assez tôt. On a commencé la saison avec la présentation le 9 et le 10, les 9 et 10 septembre, avec un spectacle en fait qu'on devait accueillir à la base au mois de mai, avril-mai. Ouais. Je sais plus trop les dates, mais bon voilà. On a réussi à reporter 9 dates sur
toute la saison, ouais.
Ouais.
Ça c'est chouette.
Ouais, carrément. Et puis ça se passe plutôt bien, en tout cas sur les accueils du public et tout ça. On s'est adapté aux mesures et tout ça, donc on a mis en place les protocoles sanitaires qu'on nous demande, hein. Mm-hmm. Et pour autant, ça se passe plutôt bien dans l'ensemble. Hein. Notre public chéri est de retour. Ça fait plaisir de le retrouver.
Ouais.
Et puis de se retrouver dans cette salle, en fait, hein, où, voilà, de partager des moments ensemble. Ça fait du bien. Mmh. Ouais. Après, effectivement, hein, ça reste en. Enfin, il y a des contraintes. Hein.
Oui, il n'y a forcément pas la même saison que les précédentes ou la même dynamique, mais
même
bon, il y a les spectacles.
Même si quand même on reste, on a quand même réussi à garder ce rythme, hein. On est sur 2 voire 3 spectacles par semaine. On est sur la même programmation, hein, vraiment, on n'a rien changé. On est parti comme ce qui était prévu initialement. Mmh. Et voilà, on a fait confiance aussi à notre directeur, on, dans son projet qui est voilà, et on le suit, on l'accompagne. Mmh. Et d'ailleurs, on est toujours sur pour cette nouvelle saison qui s'annonce, hein, mais on s'est adapté aussi dans le fait d'ouvrir la billetterie en 2 temps. Mmh. Donc on a ouvert la billetterie en fin août pour la première partie de saison qui s'arrête donc en décembre, et on va pouvoir on va rouvrir le 30 novembre pour la deuxième partie de saison qui court de janvier à début juin.
Ouais.
Voilà.
C'est ça, justement. Et au cœur du projet, il y a aussi le jeune public.
Tout à fait.
Proposer des spectacles pour les à partir de 6 mois, enfin dans la pro.
Ouais, c'est le très très jeune public.
Les plus jeunes.
Ouais. C'est ça. Donc c'est vraiment un des axes. Enfin, c'est le projet défendu par Gurval Reto, et il axe vraiment sa programmation sur le jeune public, même si ça reste une programmation qui est pluridisciplinaire, hein, qui s'adresse à tout le monde. On se retrouve avec cette année plus d'une vingtaine de spectacles qui s'adressent effectivement entre 6 mois et puis 99 ans, parce que au-delà, ben tant mieux, mais bon.
C'est plus rare.
Ouais.
Mais ouais, cette programmation, on va y revenir tout au long de la saison sur les détails, les spectacles, mais elle est effectivement bien fournie, quoi.
Ouais, elle est bien dense, en tout cas.
Et la PJIP 49
Oui, alors du coup, comme...
Qu'est-ce que c'est que cette chose?
Les PJIP 49 et... En fait, comme le THV s'inscrit effectivement dans cette ligne directrice qui est le jeune public, il a intégré différents réseaux, et dont les PJP 49, qui sont les partenaires jeunes publics du Maine-et-Loire, qui est un réseau d'une dizaine de structures qui se sont associées tout ensemble pour essayer de... pour soutenir la création jeune public et mutualiser en fait des projets en commun. Mm. Ce qui permet aux compagnies, elles, de bénéficier d'un... comment dire,
d'un réseau de diffusion, de la production aussi.
C'est ça, être production, ouais.
C'est
production.
Beaucoup de nouvelles créations.
C'est ça. Production, diffusion et même médiation, parce qu'on tente aussi de mener des actions de médiation d'assez grande envergure qui, en fait, qui vont se... comment dire, qui se répartissent sur tout le territoire. Mais la prochaine, enfin le spectacle qui est accueilli cette année, c'est le spectacle de la vie animée de Nina W, qui est un spectacle de la compagnie Les Bas Bleus, Séverine Coulon, et qu'on accueillera au mois de novembre. Donc c'est une pièce de théâtre qui est sélectionnée en fait, enfin de théâtre ou autre, hein, bien sûr, mais qui est sélectionnée en début de saison pour justement être diffusée derrière et tout ça. Donc il y a un vrai accompagnement des compagnies dans leur projet là. Mmh. Et d'ailleurs on fait un appel à candidature pour la 7e année.
Ouais.
Parce que voilà, ça fait c'est un réseau qui existe depuis effectivement 7 ans. Et c'est l'appel à projet, il est lancé à partir de maintenant. Vous pouvez télécharger en fait sur notre site internet les différentes conditions pour répondre à cet appel et ça se clôt en fait, les candidatures sont clos au mois de décembre.
D'accord, donc pour toutes les compagnies, les artistes.
Voilà.
Maintenant qu'on sait un petit peu plus comment ça va pour le THV, en tout cas ça va bien. Toute la programmation elle est en ligne sur thv.fr et on va écouter un titre de Made the Face qui va passer le 16 janvier, ce qui est aussi de la musique au THV. Quelques mots sur cet artiste ?
Eh bien oui, écoute, figure-toi que c'est la petite fille de Pierre Richard. Je tenais quand même à le dire.
C'est vrai.
C'est là. La petite anecdote. Voilà, mais en tout cas, elle a une très belle voix. Ça, voilà, elle est sur un style de musique jazz soul.
Come true. I know love may come in time. I'm waiting
et nous sommes ce soir avec le THV et on va parler du spectacle La vie animée de Nina W qui aura lieu le 27 novembre et nous sommes en ligne avec Séverine Coulon. Bonsoir.
Bonsoir.
Et vous êtes l'autrice et la metteuse en scène de ce spectacle. Et je laisse la parole à Amélie qui a préparé plein de questions.
Bonjour Séverine.
Bonjour.
Ça va bien ?
Oui, très bien, merci.
Ouais. Alors Séverine, je vais juste prendre un petit peu de temps pour te présenter auprès des auditeurs. Donc tu es interprète, metteuse en scène, marionnettiste et autrice. Tu fondes depuis peu, puisque c'était l'an dernier, si je me souviens bien, ta propre compagnie. La compagnie Bas Bleu.
Oui.
Et ton travail s'articule principalement autour du théâtre visuel et il s'adresse à un jeune public. En tout cas, c'est jusqu'à présent, les pièces que tu as écrites s'adressaient plutôt au jeune public.
Tout à fait, oui. Oui.
On t'a donc accueilli l'année dernière avec ta première création qui s'appelait Fille et Soi lors du festival Zone de Turbulence et cette année tu reviens avec La vie animée de Nina Wallmark.
Nina Wallmark, ouais. Et La vie animée de Nina W, le titre du spectacle.
Voilà, et je sais pas si tout le monde va se rappeler de à qui est Nina Wallmark, mais en tout cas elle a marqué beaucoup de générations, surtout dans les années 80, puisque c'est la réalisatrice et créatrice de d'Ulysse 31 et des Mondes engloutis. Et moi, ce que je voulais savoir, c'était que tu nous parles un petit peu de cette femme-là et qui elle est et pourquoi t'as eu envie de faire un spectacle autour de sa vie.
Oui, en fait j'ai rencontré Nina Wallmark il y a quelques années, elle venait de voir justement Fille et Soi, le spectacle dont on parlait tout à l'heure, et elle a beaucoup aimé le spectacle et elle est venue se présenter à moi, et comme presque tous les gens de ma génération en France, j'avais adoré ses dessins animés dans les années 80, donc Les Monts Engloutis, Ulysse 31, il y avait aussi l'adaptation de Raon, le fils des âges farouches. Et donc j'étais ravie de la rencontrer, et en fait j'ai décidé d'écrire ce spectacle autour de sa vie, évidemment pas tant pour parler de ses dessins animés, mais c'est surtout parce qu'elle a eu une vie incroyable, extraordinaire, un destin assez fou, et donc parler de sa vie, c'était un prétexte pour parler aux enfants et aux adultes d'aujourd'hui, de création et d'imagination et du pouvoir de la création sur et de l'imagination sur nos vies. En fait, elle est née au pire endroit, au pire moment, en 41, en pleine ses parents venaient de quitter Varsovie après les premiers bombardements, en pleine Seconde Guerre mondiale donc, et plus tard, adulte, elle fait rêver des millions d'enfants puisque ses dessins animés ont été diffusés dans le monde entier. Et avec un esprit toujours très curieux, cet espoir en fait dont j'avais envie de parler.
Et du coup, enfin, la pièce, elle évoque justement, enfin, tout. C'est pas une biographie non plus que t'en fais. Hein. C'est t'as saisi des morceaux de sa vie pour raconter un petit peu donc son parcours. Et à travers ça, cette pièce-là, qu'est-ce que t'as voulu qu'est-ce que t'as voulu montrer? Enfin, quel est le message en fait pour les enfants? Enfin, pour tout le monde en fait, hein, pour tout le public. Mais qu'est-ce que t'as voulu faire passer à travers elle?
En direction de tous les publics.
Ouais.
Oui, alors, on pourrait parler de résilience. Moi, j'avais surtout envie de parler de la force de l'imagination, comme je disais tout à l'heure, et puis aussi de la richesse des déplacements. C'est une femme qui a donc beaucoup voyagé, tout simplement parce que petite, elle était réfugiée, en fait. Ses parents se sont réfugiés en Russie. Pour échapper à la guerre à ce moment-là, et ensuite ils ont dû se réfugier à nouveau en France, et j'avais envie de parler de la richesse des migrations aussi. Et puis ce qui m'a séduite quand j'ai rencontré Nina, c'est cette énergie et cette Et cet espoir et cette motivation presque de l'ordre de l'enfance, elle dit on n'a qu'à faire. C'était quelqu'un qui continue encore même maintenant à presque 80 ans à dire on n'a qu'à faire. On va faire les choses et ça va changer, oui. Et j'avais envie qu'on parle de cet espoir-là parce que j'ai discuté d'avenir avec des enfants autour de quand j'ai commencé à travailler sur l'écriture du spectacle et autour de ce projet et les enfants sont jamais défaitistes, ils nous trouvent nous adultes plutôt défaitistes, mais eux même s'ils ont une ultra conscience de ce qui nous attend et de la réalité et des problématiques à cette époque-là, enfin c'était il y a 2 ans de la planète, qui sont toujours évidemment présentes, mais il y en a d'autres encore aujourd'hui, mais en tout cas ils sont plutôt porteurs d'envie et d'espoir et ils ont envie que les choses changent et voilà, j'avais envie à travers le modèle de, enfin la projection sur l'histoire de Nina, qu'on puisse se poser ces questions-là. Et la scénographie, l'écriture parle de ça, l'histoire. Les choix de le choix de la vie de Nina parle de ça, son l'écriture et aussi la scénographie et la mise en scène montrent ça, qu'avec rien on peut arriver à faire de belles choses.
Moi, je me demandais aussi, pour revenir à cet échange que vous avez eu avec Nina, donc la vraie personne que vous avez rencontrée, Nina Vollmark. Pour autant, le spectacle met en scène des éléments de sa vie, part de sa vie, mais donc c'est pas une biographie. Comment elle a reçu, elle, le fait de voir sa vie en partie mise sur scène, mise en partage, et puis de devenir aussi en quelque sorte un personnage de fiction ?
Oui, c'était pas évident. Alors on a travaillé quand même ensemble, j'ai pu l'interroger autant que je voulais, mais il y avait des sujets qui n'étaient pas faciles parce que il y avait évidemment des sujets lourds pour elle et très sensibles, notamment la famille, sa grand-mère, ses grands-parents, ses oncles et ses tantes qu'elle n'a pas connus puisqu'ils sont très certainement, elle ne le sait même pas, morts dans le ghetto ou bien morts en camp de déportation malheureusement. Donc il y avait des sujets comme ça ultra sensibles et puis il y avait des sujets qu'elle avait envie que j'aborde absolument et le spectacle ne peut durer qu'une heure. Donc c'était un peu compliqué. Et après, elle il y a quelques ouvrages qui ont été écrits sur son travail, sur le travail de Gilbert, son mari, qui est le réalisateur de ses dessins animés, parce que Nina est scénariste et autrice. Et donc elle est un peu habituée à ce qu'on s'intéresse à son travail et à son passé, mais c'est vrai qu'elle a dû faire preuve d'abnégation, même je dirais presque, sur certains sujets. Et puis la grande déception, c'est qu'on a joué les premières la semaine dernière. Donc ça c'était génial, mais la grande déception c'est qu'ils ont pas pu venir, ni elle ni Gilbert, parce qu'on jouait dans le nord en zone je sais plus comment
écarlate,
on dit là
en...
oui voilà la zone ouais, j'arrive pas à le prononcer tellement c'est pénible, enfin rouge écarlate ça veut dire
en zone d'alerte
maximum quoi. Voilà. C'est ça. Donc, ils n'ont pas pu venir, ce qui n'est pas grave parce qu'on va rejouer le spectacle d'autres fois et ils viendront le voir à ce moment-là. Mais en tout cas, pour elle, c'est un moment très très fort. Donc, on a échangé au téléphone, j'ai enregistré les applaudissements, j'ai enregistré des petits messages. L'équipe lui a envoyé régulièrement des messages. Donc, on a pu partager ça quand même à distance, comme on fait depuis quelques mois.
Et sur scène, du coup, tu façonnes un univers vraiment très visuel. Pourquoi tu fais ce choix du théâtre d'objets, de la marionnette ? Qu'est-ce que t'aimes, toi, dans cette forme théâtrale ?
Moi, j'aime bien le fait que ça évoque. J'appelle ça du théâtre d'évocation. J'aime bien la liberté que ça offre. C'est-à-dire que une image, enfin, ou une scène visuelle, plutôt que textuelle, va permettre de... Je trouve, moi, de projeter plus. Et c'est un bon vecteur pour s'adresser aux enfants et à tout le monde. Pas seulement aux enfants, vraiment à tout le monde. Et j'aime bien ça. Je trouve que c'est porteur de liberté dans l'imagination. Ça laisse de la place à la projection. Donc voilà. Et c'est un gros travail de se dire, est-ce que là, je pourrais pas exprimer ça avec autre chose que des mots. Et voilà, on s'éclate, on a évidemment fait un gros travail d'équipe. Un gros travail d'équipe, je pense, encore plus que dans du théâtre, de texte. Voilà, là, il y avait deux, deux décorateurs, on a des mécanismes qui demandent beaucoup de réglages, etc. Et puis qui demandent beaucoup d'investissement aux interprètes.
Et au-delà de justement de tout ce théâtre d'objets, t'as travaillé à côté de ça avec une illustratrice et un musicien également. Qu'est-ce qu'ils viennent rajouter du coup à tout cet univers qui est déjà très comment dire,
très complet.
Ouais, très complet. Voilà, merci Annie. Ouais.
Mais le partenariat avec le musicien, le compositeur Sébastien Troster, il est musicien, mais c'est aussi lui qui compose. Donc il existe depuis Fille et Soie, le précédent spectacle. Et donc c'est pareil pour nous, c'est un autre, la musique est un autre personnage et on le travaille comme un gros pouvoir d'évocation. Et il est indispensable, c'est un travail qui est indispensable à la création de scènes visuelles en fait. Donc là il y a une grande fidélité à cet endroit-là, ça s'est hyper bien passé, on est très content. Et puis avec l'illustratrice Louise Duneton, c'est pareil, c'est une collaboration qui date maintenant, c'est voilà, des fidèles de la compagnie. Et donc Louise était l'illustratrice de l'album qui a inspiré Fille et Soie. Et là, sur les spectacles, elle était évidemment conseil, puisqu'il y a toujours un travail autour du papier, des encres, un travail très esthétique. Donc elle était de fort bons conseils auprès de moi. Elle était tout simplement assistante à la mise en scène sur tout le projet. Donc elle a été là pendant toute la création du projet, quasiment dès l'écriture aussi. Et puis ensuite, à la fois en aide logistique et en travail artistique notamment avec les comédiens.
Dans le précédent spectacle, dans Fille et Soie, il y avait l'idée de pour de vrai, avec des choses qui se créaient sur le moment, sur scène, des projections, enfin pas de trucage, de vidéo. Et pour les spectateurs et les jeunes spectateurs, c'était aussi peut-être une révélation de se dire « Ah, c'est en direct, enfin, la magie du spectacle ». Comment ça se... Est-ce que c'est quelque chose que vous... reprenez aussi pour ce spectacle-là? Et vous nous disiez tout à l'heure, vous partez vraiment d'un espace complètement vide au début du spectacle pour arriver à quelque chose de beaucoup plus rempli, coloré et vivant aussi.
Alors le pour de faux, oui, j'adore. En fait, quand on nous dit c'est pour de faux ou pour de vrai, on ne sait plus où est la limite au théâtre. Et quand les enfants disent ça, c'est souvent qu'ils ont l'impression, quand ils me disent c'est pour de vrai, ils ont l'impression, ils se rendent compte ça veut plutôt dire c'est fait en direct. Ça veut plutôt dire elle le fait pour nous là, maintenant. Et c'est pas de la vidéo enregistrée que tout le monde peut voir et que je peux revoir à l'infini. C'est exactement comme les dessins animés. D'ailleurs, c'est un fan qui disait ça il y a quelques jours. Ulysse 31, dans les années 80, c'était diffusé 5 minutes tous les jours. Et si on le loupait, c'était foutu. Il y avait, je pense qu'il y avait déjà les magnétoscopes, mais c'était vraiment, tout le monde n'en avait pas, c'était les tout débuts. Donc si on le loupait, c'était foutu. Il fallait en parler le lendemain à la récré avec les copains. Et moi, j'aime bien ça, dans le spectacle vivant. Hein. Ça fait sa fragilité aussi, mais ça fait sa richesse. Et donc... dans le précédent spectacle, dans celui-ci, il n'y a effectivement pas de vidéo, pas de technologie, mais c'était aussi pour servir le propos, c'est-à-dire que c'est cette idée de je pars de rien et je peux faire des belles choses, cette idée de mettre en avant l'imagination et la création. Et comme pour un dessin animé de manière traditionnelle avant le numérique, c'est-à-dire j'ai une feuille de papier, un crayon, quelques feuilles de papier, un crayon, et en faisant tourner très vite, je crée le mouvement et je crée le début du dessin animé. Et donc j'avais envie que la scénographie, que le décor, que la mise en scène soit sur cette base-là. J'avais envie qu'on puisse rentrer le soir chez soi et se dire je vais faire pareil dans mon garage. Quant au plateau vide, il n'est pas tout à fait vide au début. Vous verrez, venez le voir, il n'est pas tout à fait vide au début, mais on peut dire qu'il est quand même relativement ordonné, on pourrait dire ça, ce qui n'est absolument pas le cas à la fin du spectacle. Mais ça m'amuse beaucoup.
Et du coup, ça, c'est donc la première, elle va pas se faire au THV, bien évidemment, mais tu as je crois qu'elle est déjà passée la première, d'ailleurs.
Oui, c'était la semaine dernière. C'était il y a une semaine précisément, la première. On était à Lille et on est rentré il y a à peine 2 jours. Voilà.
Et vous arrivez donc dès la semaine prochaine en fait au THV.
Oui, oui.
Pour une petite résidence.
Oui,
qui,
oui.
Qui n'est pas donc du coup pour justement la continuité de la création de la. Enfin, si c'est la toujours en création de la pièce, mais pour une adaptation de la pièce dans des salles qui seraient plus petites, c'est ça?
Voilà, dans des salles plus petites, moins équipées. Notamment pour répondre à l'appel à projet des PJP 49, les partenaires jeunes publics du 49. Donc il y a des grandes salles, mais il y a aussi des plus petites salles avec possiblement moins de projecteurs, etc. Donc on va faire cette réadaptation-là la semaine prochaine. Je suis hyper contente d'avoir prévu cette résidence après les premières, parce qu'il y a aussi... bizarrement, en fait, par exemple, les décors ou les marionnettes ou les mécanismes ne s'usent pas tant que ça en tournée. Ils s'usent beaucoup sur les répétitions juste avant les premières. Donc là, en fait, on a besoin de, après les premières, après toute l'émotion, oui, voilà, des premières, de recaler quelques petites choses, juste, non pas qu'elles fonctionnaient pas, mais qu'elles soient plus pratiques à monter, à démonter pour chaque représentation. On a besoin d'optimiser le rangement du camion, par exemple. Et puis aussi, moi, je voudrais qu'on après tous ces retours, on a joué 7 fois la semaine dernière, on a eu des retours magnifiques et puis des petites fragilités de rythme qui sont inhérentes à tout spectacle qui vient de rencontrer son public. Et donc je voudrais qu'on retravaille un peu à certains endroits, non pas de modifier mais peut-être de resserrer des choses. Donc c'est super d'avoir une résidence la semaine prochaine. Et puis je suis hyper contente que ça se fasse au THV, parce que voilà, c'est un théâtre qui est fidèle, qui a répondu présent en urgence, vraiment en méga urgence, quand on a eu besoin de trouver un cœur d'enfant pour chanter le générique du spectacle, parce que comme dans les dessins animés, il y a un générique pour ce spectacle. Et à cause de la crise sanitaire, on a été privé du cœur d'enfant qu'on avait prévu. Donc voilà, donc le THV est un super partenaire. Donc je suis contente qu'on vienne la semaine prochaine. Ça va être très chouette, je pense.
Et moi, question Séverine, comme ça, est-ce que justement c'est souvent que ça arrive comme ça, qu'il y ait des résidences juste après les premières et qui permettent justement de réajuster tout ça, enfin les justement après les retours des premières, après d'avoir testé vous, est-ce que ça arrive régulièrement que les compagnies puissent avoir justement ce temps-là de résidence derrière?
Mais je crois pas, enfin je sais pas, mais je crois pas, enfin moi ça m'était jamais arrivé et je crois que ça ne se fait pas, mais moi je suis super contente de l'avoir prévu. Ça va, je pense, enfin comme ce que je viens de dire, quoi, ça va être vraiment vraiment utile. Alors pour retravailler le rythme, je sais pas si c'est l'idéal. En fait, je pense que vraiment l'idéal, c'est de jouer devant du public. Je pense qu'un spectacle, ça se rôde en public et que on peut pas être prêt complètement au début. De toute façon, à un moment, voilà, c'est du spectacle vivant, donc il faut qu'il y ait du public. Donc là, ça sera des répétitions qui seront bienvenues de toute façon, mais je crois de toute façon qu'un spectacle doit se roder avec son public. Mais par contre, pour toutes les petites choses que j'indiquais, de prendre le temps enfin de faire des choses qu'on peut pas faire sur la fin dans la fatigue et tout ça, moi je trouve ça super bien. Je pense que je le prévoirai pour les prochaines créations. Oui, oui. Mais bon, comme on est toujours en train de resserrer, on est toujours en train de courir après le temps, l'argent surtout, c'est pas évident de prévoir ça. Et là, on n'avait pas le choix parce qu'il faut vraiment qu'on adapte le spectacle. Il y a eu un moment où j'ai fait un vrai choix de dire bon, on fait un spectacle plus grand, enfin en tout cas plus large au niveau de la scène, de l'ouverture du plateau, que ce qui était prévu initialement, et donc l'obligation de faire cette résidence est apparue assez vite.
Et ben en tout cas ça donne envie tout ça, et alors du coup on vous invite tous à venir le 27 novembre au THV et c'est à 19h.
Oui, j'ai hâte. Ça sera parmi les premières, donc aussi, hein, on aura joué un petit peu entre les deux, mais c'est toujours un super moment à partager. Voilà, les premières représentations d'un spectacle dans un lieu partenaire qui a suivi le projet depuis le début. Donc c'est super.
Ben merci beaucoup, Séverine.
Merci.
Et à très bientôt.
À très bientôt. Au revoir.
Donc on parlait de la vie animée de Nina W. Et vous avez noté, c'est le 27 novembre à 19h au THV à Saint-Barthélemy d'Anjou. On va maintenant écouter un morceau. Amélie, je sais que tu as tellement de choses à dire, on ne va pas en parler parce qu'on n'a pas beaucoup de temps. C'est The Savage Ancestry. David
vrai,
Chevalier et Kyrie Christmanson. En tout cas, ils seront en concert le 20 mars au THV.
Oui, exactement.
Je suis désolée de ma prononciation.
Moi, je l'adore.
Thank you. ancestry. It's a savage, savage ancestry.
Presque la fin de cette oreille curieuse qui est consacrée au THV, toujours sur Radio G bien sûr. Et la prochaine date dont on a choisi de parler, c'est le 21 novembre et c'est la nuit du cinéma. Alors attention, elle a un nom que j'adore.
C'est... Ah oui, c'est Quig.
C-U-I-G, parce que c'est anglophone.
Ah c'est génial.
Bah oui.
Je l'aurais jamais prononcé comme ça.
Oui, ce n'est pas Quig. Et si vous vous demandez qu'est-ce qu'on raconte, c'est parce qu'il y a écrit C-U-I-G. Et ça veut dire see you in game, à bientôt dans le jeu.
Oh là là,
ça nous donne des indices sur le thème de cette nuit du cinéma.
Ouais.
Qui est
Ça va être une nuit du cinéma de folie. Ordinairement, les nuits du cinéma sont organisées par les membres de l'équipe du THV. Et cette année, c'est de nouveau Yannick.
Qui est un robot.
Qui est un robot qui s'y est collé. Et là, je pense qu'effectivement, enfin, c'était une réflexion qui avait eu lieu en fait au début aussi parce qu'on voulait collaborer avec les jeunes du CCAS de la ville de Saint-Barth. Et ça s'est pas fait à cause du confinement et tout ça. Mais donc, du coup, Yannick est un féru de jeux vidéo. A réussi à nous faire une très belle programmation et au programme, c'est énorme. Ça donne trop envie. Enfin, moi, il y a un tournoi de Mario Kart.
Oui, à 14. Il y a deux choses. En fait, il y a à la fois programmation tournoi jeux vidéo et programmation de film.
Cinéma, exactement.
Donc on commence par Mario Kart.
Ouais, on va commencer par Mario Kart.
8 Deluxe, si vous vous posez des questions. Ou si vous voulez vous entraîner chez vous.
Ensuite, on fait une petite pause. Parce que je pense que c'est beaucoup d'émotions.
Parce qu'il y a 2 heures de tournoi, quand même.
Ouais. On regarde Les Mondes de Ralph. Film animé de 2012, voilà, qui s'adresse plutôt à un jeune public à partir de 5 ans, je dirais. Qui, effectivement, c'est des personnages d'un jeu vidéo. Et puis, on recommence avec la finale du tournoi de e-sport, là, de Mario Kart. Pendant 2 heures de temps, non, 1 heure de temps cette fois-ci.
Même 45 minutes. Parce que là, c'est la finale, il y a eu les qualifications pendant 2 heures avant.
Ouais, c'est ça.
Donc là, j'ai l'impression que c'est encore plus intense. Ce sera que les meilleurs.
Les meilleurs des meilleurs.
Il faut vraiment s'entraîner. Hein.
C'est ça. Et puis à 20h, il y a de nouveau un film qui s'appelle Ready Player One, un film de Steven Spielberg des années 2018. Voilà, toujours dans cet univers du jeu vidéo.
Et qui rend hommage à tout ce monde-là, de l'imaginaire. Enfin bon, c'est l'occasion de le voir en grand écran.
Ouais.
Moi, je ne l'ai pas vu encore.
Moi non plus.
Et ensuite, on rejoue nuit du cinéma gamer.
Exactement, avec une petite rétro LAN party.
Alors là, ça parle à ceux qui connaissent.
Exactement, avec des mots très techniques. Hein.
Mais LAN, c'est jeu en ligne, je crois.
Ouais.
Donc on joue en réseau et alors il y a
divers jeux
Trackmania, Worms Armageddon et Team Fortress 2.
Ouais. Des jeux de voiture, il y a des jeux avec des petits verres.
Oui, ça c'est connu, il faut exploser tous les autres petits verres.
Ouais.
C'est Worms Armageddon.
C'est ça. Et Team Fortress c'est un jeu de pistolet, je crois.
Et tout ça on joue sur le grand écran du THV ?
Ouais, exactement.
Waouh.
Ça va être énorme.
Et vous fournissez toutes les consoles ?
Ouais. Et à l'intérieur, en fait, enfin à l'extérieur de la salle, on propose également tout un espace jeux d'arcade, tester également les jeux de
réalité virtuelle.
Ouais, c'est ça.
Ouais.
Et donc qui est en accès libre et tout ça. Donc c'est gratuit, hein, bien évidemment, sauf les séances de cinéma qui sont à 4€ la séance.
Donc on peut venir juste au tournoi.
Exactement. Juste venir voir un film en famille.
À une partie du tournoi,
voilà, revenir, repartir, enfin jouer un peu, découvrir les jeux d'aujourd'hui, les jeux d'hier, et tout ça en une après-midi et une soirée.
À partir de 14h, mais on ouais. peut arriver quand on veut. Trop chouette. Ça s'annonce encore, encore complètement différent des autres nuits du cinéma.
Ouais.
À chaque fois, vous faites des choses. Ok. Des choses à ajouter sur cette soirée.
Sur cette soirée. Eh ben, venez. Venez nombreux, mais pas trop quand même. C'est limité.
C'est limité. Mais oui, si on n'a pas de console chez soi, c'est bien en fait.
Ouais.
Qu'on a envie de jouer.
Mais même ceux qui effectivement ne sont pas des férus de jeux vidéo, ça leur donne envie. Moi, personnellement, ça me donne envie de venir.
Ouais.
Ouais.
Bon, merci beaucoup à vous deux d'être venus nous parler du THV. On se retrouve dans un mois, le 10 novembre,
oui.
pour la suite des actus. Si vous avez raté un bout de cette émission, elle est en ligne sur le site de Radio G, à la page de l'Oreille Curieuse, en podcast. Nous, on se retrouve demain à 18h10. Je ne sais pas encore avec qui nous serons en invité, mais il y aura Nicolas et sa chronique psy. Bref, à découvrir, c'est la première. Vous verrez ça. D'ici là, n'hésitez pas à nous écrire, à nous contacter par mail prog.radioG@gmail.com ou sur les réseaux sociaux de la radio. À 19h, c'est Tendance à me plaire. Bonne soirée, à demain, au mois prochain pour le THV.
Believe in your own way. It's time to play.